إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons parler aujourd'hui, inshallah ta'ala, des suggestions du diable, les waswas, par lesquelles sont éprouvés grand nombre d'adorateurs. En effet, nombreux sont ceux qui souffrent de ces suggestions du diable, que ce soit dans leurs ablutions, dans leurs prières, lors de leur lavage, et autres parmi les œuvres ou les adorations. C'est pour cela qu'il fait partie des provisions utiles à l'adorateur de savoir comment faire face à ces waswas et comment s'en délivrer. Tout d'abord, il faut savoir que nul parmi nous n'en est à l'abri. Et ceci est la première chose qui va t'aider à faire face au waswas et à t'en délivrer. J'insiste sur cela, car certaines personnes peuvent être dans le déni. On entend des gens, par exemple, qui refusent totalement d'admettre qu'ils sont sujets au waswas, car elles considèrent cela comme une honte ou une faiblesse. Donc lorsque tu le conseilles à ce sujet, que tu vois qu'il a certaines erreurs dans la manière de se laver ou de prier, il n'accepte pas le conseil. Car, à la base, il ne reconnaît pas le problème. Pour lui, sa manière d'agir est normale. Il pense que ce qu'il fait est tout à fait normal et que c'est cela qui est légiféré. De ce fait, il ne peut pas se soigner, il ne peut pas se corriger. Il est donc important de commencer par souligner ce point essentiel, qui est que chacun d'entre nous peut être touché par certaines suggestions à certains moments et dans certaines adorations. Et le fait d'être touché par les waswas, ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse, et ce n'est pas une chose blâmable. Mais ce qui est blâmable, comme on va le voir, c'est que tu te soumettes à ces suggestions, c'est-à-dire que tu les suives et que tu considères que ceci est normal ou légiféré. Le deuxième point important sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'il nous incombe à tous en tant que musulmans de louer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir guidés à l'islam et pour nous avoir honorés par le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé afin qu'il soit pris pour modèle, afin qu'on suive sa sunnah, afin que cela soit notre exemple. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait du suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un moyen d'obtenir son amour et le pardon de nos péchés. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ » Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le messager d'Allah. Quelle est la récompense? Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié toute chose. Il nous a indiqué tout bien et il nous a mis en garde contre tout mal. Donc ta référence, et ce en tout domaine, ce doit être la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il te vient à l'idée de faire une chose dans ta prière, de la recommencer, ou bien de faire tes ablutions d'une certaine manière, ou de te laver après tes besoins d'une certaine manière, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que ceci est légiféré? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum agissaient ainsi? Et ceci t'éclairera bi'idhnillahi ta'ala et t'évitera nombre d'excès et d'erreurs dans lesquels tombent ceux qui souffrent de ces suggestions, ces waswas. On va revenir sur ces points avec plus de détails inshallah ta'ala dans cette assise. Donc comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du diable un ennemi pour nous. Et le diable, il se place sur le droit chemin et nous assaille de tous côtés et par tous moyens avec pour objectif de nous égarer du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à son sujet « ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ » Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre cela, contre le fait de suivre le diable. Et il nous a ordonné de le prendre pour ennemi et de ne pas lui obéir. Il dit subhanahu wa ta'ala, « Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. » Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Et il dit subhanahu wa ta'ala, « Ya bani Adam, لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. Ô enfant d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos parents. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son noble livre de ce que le diable a fait à notre père Adam alayhi salam, afin de nous mettre en garde contre le fait de suivre le diable, de suivre ses suggestions, de suivre ses wasawis, et de lui obéir. Et en parallèle de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre son droit chemin. Et il nous a interdit de suivre les sentiers qui sont les sentiers du diable. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, le chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Vous connaissez certainement le hadith dans lequel il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un trait sur le sol, un trait droit, puis il fit à sa droite et à sa gauche des traits obliques. Puis il dit au sujet du trait droit, ceci est la voie d'Allah. Et ensuite il dit au sujet des traits obliques à sa droite et à sa gauche, ceci sont les sentiers du diable. Et à chaque sentier, il y a un démon qui y appelle. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset que l'on vient de mentionner. Donc ceci nous indique que le diable, il va déployer tous ses efforts, tout ce qui est en son possible, pour te mener à un de ces sentiers, afin de t'écarter de la voie droite. Et le chemin droit, c'est celui sur lequel était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et sur lequel l'ont suivi ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, en s'adressant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Et tu guides vraiment vers un chemin droit. Donc celui qui suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles et dans ses actes, celui-ci est sur le droit chemin. Et il fait partie de ceux qu'Allah aime et à qui il pardonne les péchés comme on l'a vu dans le verset. Mais celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le contredit dans ses paroles ou qui le contredit dans ses actes, alors cela veut dire qu'il a suivi un parmi les sentiers du diable. Et si tu médites sur ta situation, lorsqu'il t'arrive parfois de suivre certaines suggestions du diable, lorsque tu suis le waswas, alors tu verras qu'en faisant cela, tu t'opposes généralement à ce qui est légiféré sur de nombreux points, et tu te soumets alors au diable qui est ton ennemi déclaré. Et observe autour de toi la situation de ceux qui ont laissé place au waswas, qui s'y sont soumis, au point de considérer les suggestions du diable comme la vérité à suivre. Ils finissent généralement hantés par ses suggestions, hantés par ses ruminations, au point qu'ils sont touchés par ses suggestions dans tous les domaines de leur vie, pas seulement dans leurs adorations. Et l'erreur de base, c'est quoi? Quelle est la première erreur qu'il faut éviter, qu'il ne faut pas faire pour ne pas se retrouver dans cette situation? C'est le fait d'obéir au diable, d'avoir prêté attention à ses suggestions, d'avoir accepté sa parole, cette suggestion qui te vient, ce waswas, d'y avoir donné de l'importance et de l'avoir suivi, te détournant ainsi du suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est impératif, comme on a dit, de prendre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme référence en toute chose, et d'autant plus en ce qui concerne nos adorations. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont tellement soumises aux suggestions du diable que s'il accomplit les ablutions ou qu'il accomplit la prière, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va douter de la validité de sa prière et de la validité de ses ablutions. Pour lui, il n'en a pas fait assez. Certaines personnes qui sont prises par les waswas, s'ils partagent un repas avec des gens ou avec des enfants, parmi le commun des musulmans, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme le faisaient ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, mais comme le font les musulmans à travers le monde. Tu vas le voir après cela, se laver les mains et se laver la bouche avec exagération, comme s'il avait été touché par une impureté. Donc bien sûr ici, je fais une petite parenthèse, on ne parle pas de la situation actuelle avec l'épidémie, le coronavirus, qui nécessite de nous certaines mesures en termes d'hygiène dans le lavage des mains. Mais ceci est nécessaire car le virus est présent et cela fait partie des causes pour limiter sa propagation. Mais on parle ici d'un point de vue général. C'est important à souligner que certaines personnes ne pensent pas qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas se laver les mains plusieurs fois et ainsi de suite et ne pas insister sur cela. Ceci, ce sont des mesures exceptionnelles. On parle de manière générale. On voit des gens exagérer dans cela. Il va toucher une poignée de porte, il va se laver les mains. Il va toucher un robinet, il va se laver les mains. Le diable a une emprise tellement grande sur ce genre de personnes qu'ils finissent par avoir des comportements et des attitudes qui sont semblables à celles de quelqu'un de malade, ou de quelqu'un qui n'a pas toute sa raison. Il se peut même qu'il en vienne à renier et à démentir des choses qui relèvent de la certitude, au sujet desquelles il n'y a pas lieu d'avoir de doute, tellement elles sont évidentes. À titre d'exemple, il se peut qu'une personne fasse ses ablutions. Lorsqu'il commence à se laver, il voit de ses yeux ce lavage, il observe l'eau qui coule sur ses membres, mais il est dans le doute. Est-ce que je me suis lavé ou non? Pourtant, il voit ses membres mouillés, mais il est dans l'incertitude. Ensuite, il va prier. Il prononce le takbir. Il récite la fatiha. Il prononce tout cela avec sa langue. Et il l'entend même de ses oreilles. Donc en réalité, il en a la certitude. Malgré cela, une suggestion lui vient et il croit le diable. En reniant sa certitude, en doutant d'avoir prononcé ou non le takbir, en doutant d'avoir prononcé la fatiha ou non, alors qu'il s'est entendu lui-même. Donc il va renier sa certitude, rejeter ce qu'il a vu de ses yeux, rejeter ce qu'il a entendu de ses oreilles. Et il va croire le diable. Le diable va aussi le faire douter sur son intention, alors que toute personne douée de raison connaît ses intentions, connaît ses objectifs, et ce avec certitude. Et comme on va le voir par la suite, on va développer le sujet de l'intention. Même une personne qui t'observe, elle peut connaître tes intentions. Si tu te lèves, tu vas à la salle d'eau, tu remplis un récipient, ceux qui te voient vont comprendre que tu as l'intention de faire tes ablutions. Malgré cela, tu vas le voir accepter la parole du diable. Il va lui suggérer qu'il n'a pas eu l'intention d'accomplir la prière, qu'il n'a pas eu l'intention de faire les ablutions. Alors il va être dans la confusion et l'hésitation. Il est aussi possible que certains se livrent à des suggestions au point de manquer le premier takbir de la prière. Il se peut même qu'il manque parfois une unité complète de prière, ou pire encore, qu'il manque totalement la prière. Pourquoi? Parce qu'il doit refaire ses ablutions. Il n'est pas sûr d'avoir eu l'intention, il n'est pas sûr d'avoir lavé ce membre, et ainsi de suite. Et si tu le blâmes, lorsque tu vois qu'il tarde excessivement pour faire ses ablutions, il va te jurer qu'il est certain de faire les choses normalement. Et tout ceci provient en réalité de l'exagération dans l'obéissance au shaitan, l'obéissance au diable et l'acceptation de ses suggestions. Donc le diable, en réalité, il a atteint ces personnes jusqu'à les faire souffrir. Car ce qu'ils vivent, en réalité, c'est un châtiment qu'ils s'infligent eux-mêmes ici-bas. Et en faisant cela, ils sortent du suivi de la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils pensent faire le bien. Donc je sais que ces paroles, il se peut qu'elles soient dures à entendre pour celui qui se trouve dans cette situation. Mais si tu souhaites vraiment te délivrer de cette épreuve, il est impératif que tu sois conscient de cela. Conscient, premièrement, comme on a dit, de la présence de ces suggestions, que ceci provient du diable et que tu ne dois pas l'accepter. Et conscient également que lorsque tu acceptes ces suggestions, lorsque tu les suis, alors tu t'opposes à la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois avoir la ferme décision de suivre sa voie. Et la ferme conviction que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des voies, la seule voie de vérité, et que tout sentier en dehors de cette voie fait partie des sentiers et des tentations du diable, ainsi que de ses suggestions et de ses wasawis. Tu dois avoir la certitude que le diable est ton ennemi. Le diable, il n'est pas là pour t'appeler au bien. Lorsqu'il vient à toi au moment de tes ablutions ou au moment de ta prière, ce n'est pas pour t'aider à mieux les accomplir. Ne pense pas que lorsqu'il te suggère que tu as oublié de laver un membre, c'est pour t'aider à accomplir tes ablutions à la perfection. Lorsqu'il te fait douter du fait que tu aies récité ou non la Fatiha, ou que tu te sois prosterné ou non à deux reprises, ce n'est pas pour t'aider à parfaire ta prière. Mais son objectif, c'est de te nuire et de te détourner de ses adorations. Son objectif, c'est que tu trouves ses adorations au final trop compliquées. Que tu trouves qu'il est compliqué de prier, compliqué de faire les ablutions. C'est cela son objectif. Et il se peut qu'il vienne à toi et te trompe, sous prétexte de la prudence. Car nombre de personnes qui souffrent de ces suggestions, ils pensent par ignorance faire preuve de prudence. Je fais preuve de prudence dans mes adorations. On entend souvent cela. J'ai refait mes ablutions par prudence. On ne sait jamais. J'ai refait la prière par prudence. Je ne sais pas. Peut-être elle n'était pas valide, donc je la recommence. J'ai ajouté une unité par prudence. J'ai récité la Fatiha une seconde fois par prudence. Je me suis lavé les parties une autre fois après mes besoins par prudence. Et ainsi de suite. Et cette prudence à outrance, elle s'oppose à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car la base dans notre religion est que ce qui est confirmé avec certitude ne peut en aucun cas être annulé par un doute. Retiens bien cette règle. Retiens cette règle, elle te sera très profitable, inshallah ta'ala, dans l'ensemble de tes adorations. Ce qui est confirmé avec certitude ne peut être annulé par un doute. On va revenir sur cela, inshallah ta'ala, au sujet de l'annulation des ablutions, par exemple. Donc on voit que cet excès de prudence, Cette prudence à outrance, elle mène à quoi? Elle mène la personne à être éprouvée, à se faire souffrir elle-même et à s'opposer à la voie droite sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que l'ignorance, c'est un facteur aggravant dans cette situation. Car celui qui a la science, qui connaît parfaitement les règles des ablutions, les règles de la prière et ainsi de suite, il aura les outils pour se défendre. Car il sait comment ces ablutions doivent être accomplies, comment cette prière doit être accomplie. Donc il va délaisser tout ce qui s'oppose à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il sera donc ainsi préservé de ses wasawis, bi'idhnillahi ta'ala. Donc le principal remède, afin de te préserver et te délivrer de ces wasawis, de ces suggestions du diable, c'est d'apprendre la science religieuse. Et ce, afin de connaître quelle est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de t'accrocher à celle-ci, puis te détourner de tout ce qui s'y oppose. Tu dois avoir la certitude que la seule voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui mène au paradis, c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de cette voie, il n'y a rien d'autre si ce n'est les sentiers du diable. Donc lorsque tu suis ces suggestions, lorsque tu suis ce waswas, tu suis un parmi les sentiers du diable. Et en faisant cela, c'est comme si tu prenais le diable comme ami et comme conseiller. Donc pose-toi la question et demande-toi si tu souhaites que le diable soit pour toi un compagnon et un conseiller. Et si c'est le cas, que tu acceptes ses suggestions et que tu le prends pour ami, comme conseiller, et ainsi de suite, alors tu risques de faire partie de ceux qui diront « Ya layta bayni wa baynak bu'd al-mashriqayn fabi'sa al-qarin » Hélas, si seulement il y avait entre toi et moi la distance qu'il y a entre les deux Orients, entre l'Est et l'Ouest, quel mauvais compagnon que tu es. Celui qui suit le diable au jour de la résurrection, il se rendra compte que le diable était un mauvais compagnon. Mais toi, par la grâce d'Allah, tu es musulman. Tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as donc conscience dès aujourd'hui, de ton vivant, dans cette vie d'ici-bas, que le diable est pour toi un ennemi déclaré et que tu ne dois pas le suivre. Et médite sur la situation des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, la manière par laquelle ils s'appliquaient à suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et prends exemple sur eux dans leur suivi du droit chemin. On rapporte que l'un d'entre eux disait « Un peuple m'a certes précédé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et s'ils n'avaient pas dépassé les ongles lors des ablutions, je ne les aurais pas dépassés. C'est-à-dire, si les ablutions n'étaient que de laver les ongles, je n'aurais lavé que mes ongles. Et il veut dire par cela qu'il ne lave que ce qui est légiféré de laver, de la manière qui a été légiférée. Un jour, un homme parmi eux eut l'idée de prendre un vêtement qu'il porterait au moment de faire ses besoins, sous prétexte qu'il voyait la mouche se poser sur certaines choses, puis se poser sur son vêtement. Mais après cela, il se remit en question. Et il se dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ne possédaient qu'un seul vêtement. Il délaissa donc cette mauvaise idée. Et c'est ainsi que tu dois agir avec les suggestions. Lorsqu'elles te viennent, tu dois te demander, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela? Est-ce que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, faisaient cela? Et tu vas ainsi trouver le remède afin de te délivrer de ces suggestions. Donc tu dois savoir que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun parmi ses compagnons n'était hanté par ce genre de suggestions et de wasawis. Et s'il y avait un mérite dans le fait de suivre ces suggestions, alors Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait grâce de cela à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et l'on aurait fait grâce à ses compagnons qui sont les meilleurs et les plus dignes parmi les créatures après les prophètes alayhi salatu wa salam. Donc comme on a dit, le fait d'être atteint par le waswas, le fait que le waswas vienne à une personne, ceci peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une faiblesse, mais la faiblesse et ce qui est blâmable, c'est de suivre les suggestions du diable et de s'y soumettre. C'est-à-dire que tu te soumettes à ce waswas lorsqu'il te vient. Et écoute une parole ici de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah ta'ala qui a dit « Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré ces gens hantés par les suggestions, par les waswas, il les aurait abhorrés. Si Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu les avait rencontrés, il les aurait frappés et réprimandés. » Et si un des compagnons les avait rencontrés, il les aurait jugés innovateurs et les aurait détestés. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala. Ceci est une citation que j'ai citée en ces termes, mais en réalité l'ensemble de ce cours est basé sur l'un de ses ouvrages. Donc comme je vous ai dit, je sais que ces paroles ne sont pas toujours des paroles plaisantes à entendre. Il se peut que tu trouves que ce soit une parole lourde, mais c'est une réalité que tu dois admettre. Celui qui se soumet aux suggestions du diable, il s'oppose en cela à la voie droite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'impose en cela des difficultés qui ne sont pas légiférées dans notre noble religion. Notre religion, elle est simple, walhamdulillah. Mais la personne qui a les wasawis et qui les suit, il s'impose des difficultés. Il s'impose de se laver à plusieurs reprises. Il frotte ses membres, comme il n'est pas légiféré de les frotter. Il se lave de nombreuses fois après avoir fait ses besoins. Il se peut même qu'il refasse ses ablutions à plusieurs reprises, qu'il refasse sa prière, ainsi de suite. Et tout ceci sont des difficultés qui n'ont pas été légiférées. Notre religion, elle est simple par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc une fois cela compris, on va maintenant voir, inshallah ta'ala, plusieurs points, plusieurs questions, plusieurs domaines, sur lesquels nombreux sont ceux qui sont sujets aux sawis. Donc le premier point, le premier domaine, il concerne l'intention dans la purification et la prière. Tu dois savoir que l'intention, c'est la volonté et la décision de faire une chose. Et cette intention, elle se trouve dans ton cœur. Elle ne doit en aucun cas être prononcée par ta langue. Car ceci n'est rapporté ni du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons. Et tu dois savoir que tu n'as rien non plus à prononcer dans ta tête. Mais la simple volonté de faire l'acte, ceci est ton intention. C'est-à-dire que l'intention, elle ne consiste qu'à avoir l'objectif de faire une chose. Donc lorsque tu as pris la décision de faire une chose, c'est que tu en as eu l'intention. Et il est impensable que l'acte soit dissocié de l'intention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte pour une personne douée de raison, si ce n'est avec une intention. Donc lorsque tu t'assois pour faire tes ablutions, lorsque tu ouvres le robinet, c'est que tu as l'intention de faire les ablutions. Lorsque tu te lèves pour prier, tu as eu l'intention de la prière. Et toute personne douée de raison, il ne lui est pas possible d'accomplir une adoration ou même tout acte, si ce n'est avec l'intention de faire cet acte. Car l'intention, elle est indissociable des actes volontaires de l'homme. Tu n'as pas à te fatiguer. Ce n'est pas une chose qui est difficile à atteindre. Et plus encore, je vais même te dire que si tu voulais faire une œuvre sans intention, tu en serais incapable. Ce n'est pas possible. Et si tu doutes de cela, si tu doutes de ma parole, je te mets au défi à l'instant où je te parle. De te lever sans avoir l'intention de te lever. Essaye maintenant de te lever sans avoir l'intention de te lever. C'est impossible. Il n'y a qu'une personne qui a perdu la raison qui va faire des actes sans intention. Donc l'intention, on voit à travers cela que c'est une chose simple. Elle n'est pas difficile à réaliser et à atteindre. Et le fait de douter de son intention, le fait lorsque tu fais tes ablutions de douter, est-ce que j'ai eu l'intention de faire les ablutions? Alors que tu as ouvert le robinet et que tu as fait les gestes légiférés pour faire les ablutions. Ceci est en réalité une forme de démence, wal'iyadu billah. Car tu as connaissance de la situation de ta propre personne. Tu sais ce que tu es en train de faire. Comme on a dit, lorsqu'on se lève pour faire la prière, on sait que l'on va faire la prière. Lorsque tu te lèves pour accomplir la prière du dhohr, par exemple, comment peux-tu douter de cela? Imagine-toi que quelqu'un t'appelle à ce moment-là, au moment où tu t'apprêtes à prier, pour, par exemple, discuter au téléphone. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Patiente un instant, je suis occupé, je vais faire la prière du dhohr. Tu sais donc ce que tu vas faire. C'est que tu en as l'intention. Donc une personne douée de raison, elle ne peut pas douter de ses intentions. Car tu as la certitude de ce que tu es en train de faire. Et pire encore, comme on a dit, les gens, ils peuvent même avoir connaissance de ton intention à travers quoi? À travers les indications de tes actes. Par exemple, si tu entres dans la mosquée et tu vois un homme assis dans le rang à l'heure de la prière, au moment où les gens commencent à se regrouper pour accomplir la prière du Dhor ou du Asar ou autre, en le voyant, tu vas savoir qu'il attend la prière. Tu sais qu'il est là pour prier cette prière qui est légiférée à ce moment-là. Si tu le vois se lever lors de l'Iqama, au moment où les gens se lèvent, tu vas savoir qu'il s'est levé pour prier, pour accomplir cette prière. De la même manière, si tu vois un homme aller à la salle d'ablution à l'approche de la prière, tu vas alors penser qu'il va sûrement accomplir ses ablutions, et qu'il en a l'intention, et ainsi de suite. Donc si les gens peuvent avoir connaissance de ton intention à travers ce qu'indiquent tes actes, comment toi tu pourrais ignorer ta propre intention? Ceci est impossible. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et je tiens à souligner qu'on parle ici de l'intention de l'acte. Car l'intention, elle est de deux sortes. Il y a l'intention de l'acte que tu vas faire, c'est-à-dire, je vais faire mes ablutions, je vais faire la prière du Dhor, je vais faire la prière de l'Asr. Celle-ci, elle est obligatoirement présente. Tu ne peux pas faire l'acte sans en avoir l'intention. Et c'est de celle-ci qu'on parle dans les livres de jurisprudence lorsqu'on dit que l'intention est un pilier ou une condition de la prière. Et la deuxième intention, c'est celle qui est liée à la sincérité, c'est-à-dire pour qui tu accomplis cette prière. Qu'est-ce qui te motive pour accomplir cette prière? Et c'est celle-ci que l'on se doit sans cesse de corriger et de purifier afin que nos actes soient entièrement voués à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la première intention, celle-ci alors elle est forcément présente et ce n'est pas une chose difficile à réaliser. Donc une fois que tu as compris cela, tu as alors compris qu'il ne t'est pas permis d'accepter ce que le diable te suggère en te disant que tu n'as pas eu l'intention de la prière ou l'intention des ablutions et ainsi de suite. Car croire en cette suggestion, cela revient en réalité à renier une chose évidente. Donc en faisant cela, si tu suis la suggestion du diable concernant l'intention, tu t'opposes en réalité à la législation et tu délaisses la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce sur quoi étaient ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum et les imams qui les ont suivis après eux. Et ce qui est étonnant avec ceux qui sont tentés par ce genre de suggestion au sujet de leur intention, c'est que tu vas les voir, par exemple, rester longtemps immobile avant la prière. Il réfléchit à son intention. Il reste debout sans aucun intérêt. Il prétend qu'il cherche à mettre l'intention. Tu vas donc le voir rester longtemps immobile pour sa première prière, puis ensuite pour la deuxième, et ainsi de suite. Et il fait cela tout au long de sa vie. Comment se fait-il qu'il n'a pas tiré profit de ses prières passées? Normalement, si cette chose était difficile à accomplir, elle est difficile la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais après c'est facile. Comment ça se fait qu'à chaque prière, ceci se renouvelle et se réitère? Et il y a plus étonnant encore, c'est qu'on peut voir l'un d'entre eux qui suit ses suggestions lors de sa position debout, lors de la prière en commun. Il est derrière l'imam, il ne fait pas le takbir, il attend d'avoir l'intention. L'imam commence, récite la Fatiha, récite une autre sourate, puis l'imam s'incline. Et lorsque l'imam s'incline, il s'empresse de s'incliner avec lui, il dit Allahu Akbar et il s'incline. Si tu n'as pas réussi à trouver ton intention durant cette longue station debout, alors que tu avais l'esprit libre, que tu étais concentré sur cela, comment as-tu pu obtenir l'intention en un temps très court, en ayant l'esprit préoccupé par la peur de manquer cette unité de prière? On voit donc que cette attitude et ce comportement sont une attitude et un comportement insensés en réalité. Car l'intention, c'est une chose simple et ce n'est pas une chose compliquée. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rendue simple. Pourquoi tu vas toi-même te la rendre compliquée? Comme on a dit, rappelle-toi que le diable, il ne veut pas ton bien. Il n'est pas là pour te conseiller et pour t'aider à parfaire ta prière et à parfaire tes ablutions. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé dans son noble livre de l'objectif du diable. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. C'est pour cela qu'il vient à toi avec ses suggestions, afin de te détourner du droit chemin. Et il se peut que certaines personnes disent qu'ils ont comme excuse pour cela que ceci est une maladie. Ce n'est pas de ma faute, je suis malade. Je ne peux rien y faire. C'est souvent la réponse que l'on entend de certaines personnes qui sont éprouvées par ces suggestions. Et la réponse est que c'est vrai, c'est une maladie. Le problème, c'est que tu n'as pas compris quelle est cette maladie. Tu penses que la maladie, c'est d'avoir ces suggestions, et tu souhaites ne plus les avoir. Or, ceci n'est pas possible, car comme on a dit, nous sommes tous touchés par ces suggestions du diable. Mais la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est le fait d'accepter ces suggestions et de les suivre. Donc si tu n'as pas compris la nature de la maladie, tu ne pourras pas y remédier. Il est donc très important de comprendre cela. Et tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a excusé personne pour le suivi des suggestions du diable. Et tu n'as qu'à méditer pour cela sur ce qui est arrivé à notre père Adam, alayhi salam, et à notre mère Hawa. Qu'est-ce qu'il s'est passé lorsqu'ils ont accepté la suggestion du diable? Ils se firent sortir du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala les blâma et leur dit: Alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Il leur a dit cela alors qu'ils étaient plus à même d'être excusés, car personne ne les avait précédés en cela. Ils n'avaient personne de qui tirer des leçons. Quant à toi, tu as écouté leur histoire. Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis en garde contre la tentation du diable. Et il t'a dit, subhanahu wa ta'ala, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan, kama akhraja abawaykum min al-jannah. Oh, enfant d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, Adam et Hawa. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'a averti contre cela. Tu n'as donc en réalité pas d'excuse pour délaisser la sunna, délaisser le suivi de la voie droite, pour suivre et accepter les suggestions du diable qui t'appelle à ta perte et au sentier menant en enfer, wallah al-musta'an. Le deuxième domaine dans lequel nombre de personnes sont sujets au wasawis, aux suggestions du diable, concerne la prononciation des mots. Prononciation des mots de la Fatiha, la prononciation du tashahhud, la prononciation du takbir et autres choses semblables. Et ceci en réalité c'est encore pire que ce qui concerne l'intention. Car ceci peut te mener, si tu suis les suggestions du diable, à ce qui va corrompre ta prière, en répétant des lettres, en répétant des mots, de sorte à les détourner de leur sens. Donc l'obéissance au diable, tu dois savoir qu'elle peut te mener à la corruption de ta prière. On voit des personnes, lorsqu'ils lisent le Coran par exemple, Lorsqu'ils prononcent les mots de la prière, le takbir, le tashahhud, ils vont bégayer comme s'ils avaient un défaut d'élocution, alors qu'à la base, ils ne souffrent pas de cela. Il y a certaines personnes qui ont des défauts d'élocution réels. Mais il y a des personnes, elles parlent normalement, elles n'ont aucun problème d'élocution, ne sont pas malades, mais lorsqu'ils vont lire le Coran ou qu'ils vont faire du dhikr, ils vont avoir du mal à prononcer ces mots. Donc tu dois savoir que le fait de faire sortir la lecture de sa manière légiférée, c'est une façon de t'écarter de la sunna et de t'écarter de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il y a certaines personnes, à cause de ces wasawis, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont élever la voix. Pendant la prière, par exemple, en commun, il va élever la voix lors de sa récitation, lors de son tashahhud, et ainsi de suite. De point à nuire à ceux qui sont autour de lui. Il se peut même qu'il se fasse blâmer ou dénigrer pour cela. Et tout ceci vient en réalité des wasawis, la peur de mal prononcer, alors je prononce à voix haute, afin d'être sûr d'avoir bien prononcé. C'est une erreur et ce n'en est pas légiféré. Donc en faisant cela, la personne, elle se soumet au diable, elle se met en contradiction avec la sunnah. Et elle accomplit une chose qui est nouvelle en religion, qui n'est pas légiférée. Et il n'y a pas de doute que les plus mauvaises choses sont les choses nouvelles en religion. Le troisième domaine dans lequel nombre de personnes sont touchées par les suggestions du diable, il concerne le gaspillage de l'eau. Lors des ablutions ou du ghusl, ou lors du lavage, après avoir fait ses besoins. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près de Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, alors que celui-ci accomplissait les ablutions. Il lui a dit « Ne gaspille pas ». Sa'd lui dit alors « Ô messager d'Allah, peut-il y avoir du gaspillage avec l'eau ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Oui, et ce même si tu es devant un fleuve ruisselant. » Il ne convient donc pas à la personne, lorsqu'elle fait ses ablutions, d'utiliser de l'eau de manière excessive, de laisser couler le robinet par exemple. Mais tu prends un récipient dans lequel tu mets l'eau nécessaire pour faire tes ablutions et tu fais tes ablutions avec cette eau. Et il n'y a pas besoin d'une grande quantité d'eau pour faire ses ablutions. Ceci nous indique que le diable, lorsque tu fais tes ablutions, il va te suggérer que tu n'as pas mis assez d'eau. Lorsque tu te laves après tes besoins, il va te suggérer que tu ne t'es pas assez lavé. Et ce, afin que tu exagères et que tu commettes des excès dans l'utilisation de l'eau. Et on rapporte de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il a dit « Un moud suffit pour les ablutions, et un sa' suffit pour le lavage de l'impureté majeure, ta de janaba, les grandes ablutions. » Un homme dit alors, cela ne nous suffit pas. Jabir radiyallahu ta'ala anhu, il s'énerva alors, au point que son visage s'assombrisse, puis il dit, cela suffisait à celui qui était meilleur que toi, et qui avait plus de cheveux que toi. C'est-à-dire, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que Abdurrahman ibn Atta a entendu un homme interroger Saïd ibn al-Musayyab, donc un éminent savant parmi les savants des salafs, rahimahum Allah ta'ala. Un homme est donc venu l'interroger au sujet de l'eau, suffisant à l'homme pour le lavage de l'impureté majeure, de la janaba. Saïd, rahimahullah ta'ala, lui répondit, « J'ai un récipient contenant environ 2 mouds d'eau. J'accomplis le lavage avec celui-ci. Cela me suffit et le reste de l'eau. » Allahu Akbar. Comment on fait le lavage aujourd'hui? Avec l'eau qui coule à outrance. L'homme lui dit alors, par Allah, je me rince le nez et la bouche avec 2 mouds. C'est-à-dire, il a trouvé cela insuffisant. Il a dit 2 mouds, c'est seulement ce que j'ai besoin pour laver mon nez et ma bouche. Alors écoutez la réponse que Saïd lui a donnée. Que m'ordonnes-tu face à cela alors que le diable joue avec toi? C'est-à-dire que cet excès dans l'eau, dans l'utilisation de l'eau lors des ablutions, lors des grandes ablutions, lors du lavage après les besoins, ceci provient du diable. L'homme dit alors, et si cela ne suffit pas? Car comme tu le vois, je suis un homme imposant. Saïd lui dit alors 3 mouds. L'homme répondit, 3 mouds sont insuffisants. Saïd lui dit alors un sa'a. Puis il dit, je possède 2 récipients, ne pouvant contenir que la moitié d'un moud d'eau, environ. Je fais mes besoins, puis j'accomplis les ablutions, et il me reste encore de l'eau. Abdurrahman ibn Atta, celui qui nous rapporte ce récit, dit, j'ai mentionné cette discussion que j'ai entendue de Saïd à Sulayman ibn Bashar. Sulayman dit alors, quant à moi, la même chose me suffit également. Je l'ai également mentionné à Abu Ubaïda ibn Ammar. Abu Ubaïda dit alors, c'est ceci que nous avons entendu des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Voyez donc à travers ces récits que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons, et ce sur quoi ont suivi les imams après eux, est de n'utiliser que très peu d'eau pour les ablutions et pour le grand lavage. Il n'y a donc aucun mérite et aucun bien dans le fait de te laver avec beaucoup d'eau. Ne pense pas que tes ablutions seront meilleures ainsi. On a vu le moud pour les ablutions et le sa' pour le grand lavage. Le moud, c'est quoi? Le moud, c'est lorsque Un homme de taille moyenne joint ses deux mains, ni trop ouvertes, ni trop fermées, et c'est la quantité d'eau qui tient dans ce lard. Et cela est suffisant pour les ablutions. Et le lavage avec un sa. Le sa, c'est quoi? C'est quatre mouds. C'est-à-dire, c'est quatre fois la quantité que tu tiens entre tes deux mains. Ni trop ouverte, ni trop fermée. Ni pour une personne de taille moyenne. Un sa, c'est quatre mouds. Et pour vous donner une unité de mesure concrète, le sa, il équivaut environ à une quantité d'eau inférieure à 3 litres. Un peu moins de 3 litres d'eau. Donc, le mood, c'est entre 1 demi-litre et 750 millilitres. Car le sa, il équivaut à 4 mouds. Donc vous voyez que c'est une quantité bien moindre à ce qu'utilise la majorité des gens aujourd'hui pour faire les ablutions. Et comme on a dit, c'est cela qui est légiféré. Et il n'y a pas de mérite dans le fait d'ajouter à cela. Ne pense pas que tes ablutions seront meilleures ou que tes ablutions seront plus parfaites si tu laisses le robinet ouvert, que tu le laisses couler et que tu asperges tes membres des ablutions avec des grandes quantités d'eau. Car ceci fait partie des suggestions du diable par lesquelles il essaye de t'écarter de la voie droite du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième domaine dans lequel nombre de personnes sont sujets aux suggestions du diable, il concerne les ajouts au-dessus de trois lavages, c'est-à-dire dans les ablutions toujours. Le fait de se laver plus de trois fois. On a vu lors du cours sur les ablutions que l'obligation est de laver chacun des membres une seule fois et qu'il est permis de les laver deux fois ou trois fois. Donc la sunna est ce qu'il y a de plus complet de les laver trois fois, à l'exception de la tête et des oreilles que l'on essuie qu'une seule fois. Et le fait de laver plus de trois fois, cela est interdit. Il est rapporté, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, comment a lieu la purification ?» Il lui a donc décrit la purification et le lavage à trois reprises des membres, les membres des ablutions. Puis il a dit « Ainsi sont les ablutions. » Et quiconque ajoute à cela ou diminue a certes fait preuve de malfaisance et d'injustice. Et dans une autre version, quiconque ajoute à cela a certes fait preuve de malfaisance, d'injustice et de transgression. Ishaq ibn Mansour a dit à l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, accomplit-on plus de trois lavages lors des ablutions? Il répondit alors, non par Allah, mis à part un homme éprouvé. N'accomplit pas plus de trois lavages lors des ablutions. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as vu dans le hadith, il a qualifié celui qui accomplit plus de trois lavages comme étant quelqu'un de malfaisant et d'injuste, de transgresseur. Donc, cela veut dire qu'en faisant cela, il n'a pas parfait ses ablutions. Donc celui qui pense que se laver plus de trois fois, il a lavé trois fois son bras par exemple dans des ablutions, le diable lui dit « tu n'as pas bien lavé ton bras ». Alors il rajoute un quatrième lavage et il pense bien faire en cela. En réalité, il a été malfaisant, il a été injuste, il a transgressé. Et donc, il n'a pas parfait ses ablutions. C'est-à-dire qu'il n'obtiendra pas la récompense de celui qui a parfait ses ablutions dont on a parlé dans le cours sur les ablutions. De la même manière, il ne bénéficiera pas de leur mérite, et ce à cause de son exagération, et de sa contradiction et son opposition à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn al-Muraffal, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « J'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Il y aura dans cette communauté des gens qui dépasseront les limites dans la purification et l'invocation. » Et certes, ceci est présent aujourd'hui. Des gens qui exagèrent, notamment dans la purification, en utilisant l'eau à outrance comme on l'a mentionné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans son noble livre, « Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. » Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Il n'y a pas de doute qu'il fait partie des plus grandes transgressions, le fait de s'opposer à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le mérite des ablutions. Que ces ablutions, c'est une adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te permet d'effacer tes péchés. Si tu parfais tes ablutions et que tu prononces la formule légiférée après celle-ci, les 8 portes du paradis te sont ouvertes afin que tu y entres par celle que tu souhaites. Et les ablutions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles nous ont été décrites. Sans excès dans l'eau, avec 3 lavages au maximum, ceci est la perfection, on n'en fait pas plus. Donc, lorsque tu rajoutes un lavage, ou deux ou plus, qu'est-ce que tu recherches en réalité par cet acte? Tu cherches la satisfaction de qui? La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu recherches, alors tu dois savoir que tu ne pourras pas l'obtenir en t'opposant à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, celui qui fait cela, il se soumet aux suggestions du diable. Il accepte son conseil. Et alors, il commet cet excès en se lavant plus de 3 fois lors des ablutions. Et s'il y a une question qui se pose, c'est qu'en est-il lors du doute? Les gens de science ont mentionné que lorsque l'on doute, si par exemple je ne sais pas si je me suis lavé le bras 2 ou 3 fois, alors je me base sur la certitude. La certitude, c'est quoi? C'est le chiffre le plus bas. Donc, je vais dire que je ne me suis lavé que deux fois et je vais rajouter une autre fois. Il faut savoir que cette règle, c'est une règle de base qui concerne la personne qui n'est pas atteinte par ses wasawis, qui n'est pas atteinte par ses suggestions. C'est-à-dire que si cela arrive une fois, par exemple aujourd'hui pour le Maghreb, tu vas faire tes ablutions et tu as ce doute, il n'y a pas de mal. Tu ne sais pas si tu as lavé deux fois ou trois fois, alors tu vas rajouter une fois, tu laves une troisième fois, et il n'y a pas de mal en cela. Même si tu as lavé quatre fois, tu seras excusé de par ce doute. Mais si à l'Aïcha, ce doute se reproduit, au Fajr, ce doute se reproduit, au Dhor, ce doute se reproduit, alors dans ce cas-là, tu ne dois plus en tenir compte. Tu ne tiens plus compte de cela, car tes ablutions sont valides, walhamdulillah. Et tu verras que si tu n'en tiens plus compte, et que tu n'agis pas en conséquence, alors le diable s'écartera de toi et ne viendra plus avec ce genre de suggestion. Donc comme on a dit, la règle de se baser sur le chiffre minimum, sur la certitude, elle concerne celui à qui cela arrive de manière occasionnelle. Mais celui à qui ça arrive à chaque fois qu'il fait ses ablutions, ou à plusieurs reprises, plusieurs fois par jour, alors celui-ci ne doit pas en tenir compte. Et il en est de même pour la prière, si tu doutes du nombre d'unités. La base est que l'on doit considérer le nombre le plus bas. Si tu ne sais pas si tu as fait 3 ou 4 unités, alors la certitude est que tu en as fait 3. Mais ceci est dans le cas où cela arrive occasionnellement. Mais si à chaque prière, tu ne sais pas le nombre d'unités que tu as faites, alors dans ce cas-là, tu n'en tiens plus compte. Tu ne dois plus tenir compte de cela. Et tu verras qu'ainsi, tu seras préservé de ces insufflations et de ces suggestions du diable, inshallah ta'ala. Également parmi les domaines dans lesquels nombre de personnes sont sujets aux insufflations, aux suggestions du diable, il y a ce qui concerne la perte des ablutions, en s'imaginant par exemple que quelque chose est sorti de lui. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'un d'entre vous est à la mosquée et qu'il ressent de l'air, qu'il ne sorte pas jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. Qu'est-ce qu'il signifie ce hadith? Il signifie que tu n'as pas le droit de te baser sur un doute, mais que tu dois avoir la certitude d'avoir perdu tes ablutions. Si tu ressens une chose mais que tu n'en as pas la certitude, tu attends alors. Ai-je entendu un bruit? Ai-je senti une odeur? Non. Donc, ceci relève du domaine du doute et je n'en tiens pas compte. Et je reste sur la règle de base qui est la certitude que j'ai mes ablutions. Il est rapporté de Mujahid, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit: priez. Écoutez bien cette parole lourde de sens et qui est très utile pour ceux qui souffrent de ces suggestions du diable. Priez en sachant qu'une chose est sortie de moi, c'est-à-dire sans ces ablutions en réalité, mais préférable au fait d'obéir au diable. Subhanallah. C'est-à-dire que je préfère prendre le risque de prier, alors qu'en réalité je n'ai pas les ablutions, mais je n'en ai pas la certitude, plutôt que d'obéir au diable et de retourner faire mes ablutions, alors que je ne suis pas sûr de les avoir perdues. Il est rapporté de certains parmi les prédécesseurs auxquels le diable est venu et lui a suggéré des insufflations à ce sujet. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu: tu en es arrivé à cela. Ni tu as atteint ce niveau si bas, venir me faire douter si j'ai perdu mes ablutions ou non. Je n'accepte pas de toi. Je rejette ta parole. Je n'accepte pas tes suggestions. Je me base sur la certitude. Et tu dois savoir que la majorité des savants sont d'avis que quiconque est en état de pureté, c'est-à-dire toute personne qui a fait ses ablutions, puis qui doute après cela d'avoir perdu ses ablutions ou non, alors il reste sur la certitude qui est qu'il a ses ablutions. Même si son doute est fort, qu'il a de grands doutes quant au fait d'avoir perdu ses ablutions, il ne peut pas se baser sur ce doute. Car comme on a dit, la règle, c'est que la certitude, elle ne peut en aucun cas être annulée par un doute. Donc si tu as fait tes ablutions et que tu ne sais pas après si tu les as perdues ou non, tu restes sur cette certitude qui est que tu as fait tes ablutions. Également, la personne qui a l'impression d'avoir des choses qui sortent de ses parties, alors il est légiféré pour lui d'asperger de l'eau sur son vêtement. Pourquoi? Car après, il va ressentir de l'humidité, il saura que cela vient de l'eau qu'il a mis sur son vêtement. Et cela va l'éloigner des doutes. Il est rapporté qu'un compagnon d'Abu Abdillah, Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, l'a interrogé au sujet de celui ressentant de l'humidité après les ablutions, c'est-à-dire sur ses parties. Il lui a alors ordonné d'asperger de l'eau sur sa partie après avoir fait ses besoins, et lui a dit: ne t'en préoccupe plus après cela et détourne-toi de cela. On voit donc que la personne, elle doit rechercher la certitude et ne pas se baser sur des doutes. Quoi qu'il en soit, on voit de manière générale que la religion, elle nous a été simplifiée. Mais que la personne, avec les wasawis, elle se rend les choses difficiles. Et il y a de nombreuses choses qui sont faciles en religion et que le diable veut nous rendre difficiles. Parmi ces choses, par exemple, il y a le fait de marcher pieds nus puis de prier sans laver ses pieds. Il n'y a pas de mal en cela. Mais il y a certaines personnes, par exemple, si on voit qu'ils ont les pieds avec de la saleté, vont vouloir les laver absolument. On ne va pas vouloir prier dans cette situation. Même Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, rapporte qu'une femme est venue et a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, une partie du chemin nous menant à la mosquée est sale. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, n'y a-t-il pas après cela un chemin meilleur que celui-ci, c'est-à-dire un chemin plus propre? Elle répondit, si. Il dit alors, celui-ci purifie donc ce qui a pu t'atteindre dans le précédent. Et ceci est une réponse aux personnes qui disent que la femme ne doit pas laisser traîner son vêtement sous prétexte qu'il y a des saletés sur le sol, etc. Nous lui répondons, le vêtement, il traîne sur le sol, mais il traîne aussi sur un sol qui est propre. À supposer qu'il y ait une saleté, il a traîné après cela sur un sol qui était propre. Et ceci l'a purifié, il n'y a pas de gêne en cela. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit, nous n'accomplissions pas les ablutions après avoir marché sur une terre sale. Cela ne nécessite pas de se laver. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma fut interrogé au sujet d'un homme qui a marché sur des excréments. Il lui répondit, s'ils étaient secs, alors rien ne lui incombe. Si ses excréments étaient secs, rien ne lui incombe, il n'a même pas à se laver. C'est-à-dire en termes de pureté pour la prière vis-à-vis des ablutions. Et s'ils étaient humides, alors il lave ce qui l'a atteint. Il lave seulement la partie du corps qui l'a atteint. Et écoutez ce récit qui est rapporté de Asim al-Ahwal, qui a dit, nous sommes venus à Abu al-Aliya, et nous avons demandé de l'eau. Il dit alors, qu'avez-vous? N'avez-vous donc pas les ablutions? Ils lui dirent alors, si, mais nous avons marché dans des impuretés. Il dit, avez-vous marché sur une chose humide s'accrochant à vos pieds? Ils dirent non. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur un sol où il y avait des impuretés, mais ces impuretés ne sont pas accrochées à leurs pieds. Il dit alors, et qu'en est-il de ce qui est pire que cela? Ne savez-vous pas que ces impuretés sèchent, le vent les souffle sur vos têtes et vos barbes? C'est-à-dire qu'il a voulu leur montrer que ceci n'était pas une chose légiférée. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas imposé cette charge. Dans le vent, il se peut qu'il y ait des impuretés. Est-ce qu'on va se laver à chaque fois que le vent souffle sur nous? Ce n'est pas légiféré. Également, parmi les choses qui sont simples dans la religion, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait la prière à l'endroit où il se trouvait. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la terre entière est pour moi un lieu de prière et un moyen de purification. Ainsi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, lorsque vient la prière, alors prie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accomplissait par exemple la prière dans les enclos des moutons. Nombre des personnes aujourd'hui refuseraient de prier dans cet endroit. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y priait. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, on m'a donné 5 choses et parmi elles, la terre est pour moi pure et purifiante. Ainsi, lorsque vient la prière à un homme parmi vous, qu'il l'accomplisse où qu'il se trouve. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la terre entière est un lieu de prière sauf les cimetières et les hammams. Donc on voit que la personne ne doit pas s'imposer une charge à chercher l'endroit où elle va prier. Mais elle prie où elle se trouve à partir du moment où l'endroit paraît propre, qu'elle ne sent pas l'odeur d'une impureté, qu'elle ne voit pas une impureté, il n'y a pas de gêne en cela. Car certaines personnes qui font de l'exagération à ce sujet disent, il se peut que un chien soit venu et uriné à cet endroit. Les chiens, ils entraient dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils urinaient dans celle-ci. La mosquée était faite de terre, et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ne voyaient aucune gêne en cela. Également un jour, Anas, radiyallahu ta'ala anhum, rapporte qu'il a pris un tapis de sol qui avait noirci à cause de sa longue utilisation. Il l'a aspergé d'eau et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié dessus. Se peut que certaines personnes aujourd'hui, elles aient du mal, elles aient de la gêne à prier sur un tapis qui a noirci. On pensait que cela est sale, il ne convient pas de prier sur un tel tapis. Or, ceci n'est pas légiféré, ceci est une charge qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas imposée. Il n'y a pas de gêne en cela. Également, on pourrait mentionner de nombreux sujets, comme ce qui est lié aux enfants. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait des enfants dans la prière. Et rapporté qu'un de ses petits-fils est monté sur lui pendant la prière. Il n'y a pas de gêne en cela. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pensent que la bave des enfants, c'est une impureté. S'il n'est pas impur. Si l'enfant basse sur toi, il n'y a pas de gêne. S'il fait partie des choses que tu te rends compliqué alors qu'elles sont simples en réalité. Abu Bakr porta un jour Al-Hassan sur ses épaules alors que sa bave se coulait sur lui. Il ne voyait pas de gêne en cela, car ceci, comme on a dit, n'est pas une impureté. Donc tout ceci nous indique que notre religion en réalité, elle est facilitée, et qu'il ne faut pas la rendre difficile, qu'il ne faut pas exagérer en ce qui concerne la purification, ce qui concerne le lavage, et ainsi de suite, car tout ceci en réalité fait partie du suivi des suggestions du diable. Donc, si tu t'es reconnu dans certaines choses qui ont été mentionnées dans cette assise aujourd'hui, tu dois savoir que lorsque tu agis de la manière que l'on a mentionnée qui s'oppose à la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors tu es dans l'erreur. Tu dois donc te corriger. Et tu dois revenir à ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas te faire souffrir par ces suggestions. Ne pas te faire souffrir par ces suggestions qui te viennent du diable. Car en réalité, comme on a dit, en faisant cela, tu te châties toi-même. Tu t'imposes des difficultés qui ne sont pas légiférées. Tu vas passer des longs moments dans les salles de bain, lorsque tu fais tes ablutions, de longs moments pour faire ta prière, car celle-ci va être difficile à cause de ton suivi des suggestions du diable. alors que tout ceci est simple en réalité. Donc, lorsque viennent ces suggestions, quelles qu'elles soient, que ce soit dans la prière, dans les ablutions ou autres, contente-toi de mettre en pratique ce remède prophétique qui est très simple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, qui est de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable, et de te détourner de ses pensées, de ne pas en tenir compte. Tu dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim, et tu continues ton œuvre. Si c'est les ablutions, tu continues les ablutions. Si c'est la prière, tu continues la prière, et tu ne tiens pas compte de ses suggestions. Donc on va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite, de nous écarter de toute chose qui est en opposition à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de venir en aide à toute personne parmi nos frères et sœurs qui souffrent de ces suggestions, et de les aider à se délivrer de celles-ci en empruntant la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.